19h-20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir, chers auditeurs et surtout auditrices. Je suis fier, honoré de recevoir Scholastique Mukasonga dans Conversation chez La Pérouse pour son nouveau roman Julienne, publié chez Gallimard. C'est, je crois, votre première émission en France sur ce roman. Merci de nous faire cet honneur. Scholastique Mukasonga, vous êtes né au Rwanda, vous êtes d'origine Tutsi, mais aujourd'hui vous vivez en Normandie. Et là, vous rentrez de Norvège. Alors, vous choisissez que des pays qui commencent par Nord. Norvège, Normandie. Mais vous m'avez dit que bientôt, vous alliez au Brésil. Donc, ça ne colle pas du tout.
Oh, vous savez, l'harmonie, moi, c'est ce qui doit coller toujours, c'est la chance que j'ai que mes éditeurs, que j'ai été publié dans beaucoup de pays. Et que je fais de mon mieux pour suivre vraiment. Là, c'est parce qu'il y a les sorties des livres.
Oui, c'est ça.
Donc, ouais. Donc je suis la sortie des livres. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'il y avait le N Norvège. D'ailleurs, ce n'est pas je n'étais pas à Norvège, j'étais à Oslo.
Ça n'a rien à voir.
Voilà.
Et d'ailleurs, vous êtes régulièrement citée comme une des favorites du prix Nobel de littérature. L'an dernier, c'est pas passé loin. Et je vous le souhaite vraiment. Je l'espère parce que votre œuvre est très importante. On va en parler pendant toute l'heure. Ce nouveau livre, Julienne, c'est un roman d'amour et d'aventure. C'est peut-être la première fois que vous faites vraiment comme une sorte de thriller romantique. Il y a du suspense. On se demande ce qui va lui arriver à cette Julienne qui n'a pas beaucoup de chance, hein, faut bien le dire.
Oui, c'est ça aussi, la chance de pouvoir accéder, de pouvoir entrer en littérature, ce qui n'était pas du tout ma destinée dans mon enfance et dans mon adolescence. C'est le destin quelque part qui m'a rattrapé et qui a fait que je suis arrivée à la littérature. Et quelque part, ça a été vraiment quelque part une chance de pouvoir réparer ce que je ne pouvais pas réparer à mes nues.
Il faut le dire, votre chance, c'était déjà d'avoir échappé à cet énorme génocide, ce massacre épouvantable de 1994 au Rwanda, votre pays natal. Vous étiez en France à ce moment-là et 37 membres de votre famille ont été assassinés. C'est absolument inconcevable, hein, indescriptible. Et vous essayez d'en parler de manière indirecte dans tous vos romans.
Oui. Oui, alors pour revenir, Frédéric, c'est la manie des Rwandaises et des Africains. D'ailleurs, on revient toujours sur ce qu'on n'a pas compris. On reprend la parole là où
non,
on a...
C'est moi qui vous ai interrompu, pardon. Voilà.
Alors, Julienne, à l'écrivain, là où je disais que la littérature est venue est toujours voler à mon secours, à l'écrivain, c'est que justement, sa vie a été tellement triste, mais elle se termine bien.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle va... elle va mourir, c'est dans le livre, c'est sûr.
Elle ne racontait pas la fin, enfin.
Mais je ne vais pas raconter la fin. Mais elle est morte, elle va connaître, au début de sa vie, elle est malheureuse. Mais elle va connaître la vie heureuse à la fin de sa vie. Mmh. C'est surtout ça que je voulais mettre vraiment en valeur. C'est qu'elle a été, une jeune femme heureuse.
Elle a été aimée.
Oui, elle a été aimée. Elle restera toujours aimée. Elle est aimée. Et c'est ça que je voudrais absolument retrouver. Je voudrais dialoguer avec Julienne à travers son ouvrage. Je l'ai écrit avec Julienne. Hein, oui. Et j'aurais pu l'intituler Petite Sœur. Mais j'ai préféré l'appeler par son prénom parce que justement, il fallait dialoguer avec ma Julienne.
Alors, il y a écrit roman. Mais en réalité, c'est une histoire vraie, on peut le dire. C'est l'histoire de votre petite sœur.
C'est une histoire vraie, et vécue. Mais pour justement rendre et partager cette histoire, hein, parce que c'est toujours le fardeau, il est moins lourd quand vous partagez. C'est qu'il fallait passer par vraiment mettre dans une histoire vraie, dans le réel, comme Louis Arago dit mentir vrai, il fallait mettre une part de fiction pour que ce soit léger, ce soit que ce soit, que justement ça mette en valeur cette volonté, cette raison, ce souhait que je veux que la vie de Julienne soit une vie heureuse, qui termine. Je dis que c'est une destinée d'exil, complètement parsemée des embûches et des obstacles depuis la naissance, mais c'est aussi une histoire d'un amour fou.
Oui. Alors, elle est née donc au Rwanda, dans une famille Tutsi, la vôtre. Elle a réussi
on ne dit plus Tutsi, c'est fini. C'est fini, Frédéric.
Non, ah, d'accord, on ne dit plus.
Il n'y en a plus du tout au Rwanda. On est des Rwandais.
Bon, mais elle a, donc elle parvient à s'échapper du pays pour aller d'abord à Bujumbura, au Burundi. Elle est belle comme un top modèle, ouais, vous la décrivez. Ouais, ouais. Elle est fine, elle est gracieuse. Mais il va lui arriver beaucoup, beaucoup d'embûches. Je ne vais pas raconter tout le livre parce que c'est vraiment un livre à rebondissement. Elle sera violée, elle tombera enceinte, elle tombe amoureuse d'un type vraiment très, très bizarre, un blanc, un belge pas très gentil du tout, un VRP. Ce qu'on appelle là-bas un Muzungu.
C'est un Muzungu.
Muzungu, mais... c'est quoi? Ça veut dire c'est comme les Toubabs au Sénégal? C'est les
si
blancs?
Si vous allez chez moi au Rwanda, vous êtes Muzungu.
Je suis
Frédéric.
Un Muzungu, d'accord.
Ah, oui, oui. C'est celui qui est blanc, mais c'est au-delà du blanc.
C'est le colonisateur, un peu.
Non. C'est celui qui a, le blanc égale celui qui a les moyens.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, c'est celui qui n'a pas de soucis financiers, c'est celui qui peut tout avoir, ce qui était, on en a vu quelquefois des Bazungu dégénérés.
Alors, attends, Bazungu ou Muzungu?
Muzungu, c'est au singulier.
Ah,
vous êtes un Muzungu. Et alors, d'accord. Si vous êtes avec votre ami, vous êtes des Bazungu.
Des Bazungu, d'accord. Voilà. Ça va être un cours de... Cours
c'est celui vraiment qui étale sa richesse, mais qui est normalement Muzungu, avec un parent français. Mon mari, il était Muzungu, alors qu'il n'a rien de riche. Mais c'est vraiment quand c'est dégénéré, les colons qui ont traîné trop en Afrique... qui sont devenus, qui parlent en plus Kinyarwanda, qui n'ont pris rien, ils n'étaient plus du tout Bazungu. Moi-même...
Vous êtes considérée comme une Muzungu,
oui,
une femme de Muzungu.
Campagne. Non, oui. Non, à la campagne, je suis moi-même Muzungu parce que je vis en France.
Oui,
et que je suis considérée comme ayant les moyens. Mais normalement, c'est une appellation absolument réservée aux Blancs.
Alors, c'est vraiment une émission où on va apprendre beaucoup de choses, vous l'avez compris.
Non.
Et notamment, vous avez choisi de nous faire entendre de la musique rwandaise. Donc, c'est Kara Anyuze, pardonnez-moi pour la prononciation, par François-Xavier Ngarande,
oui.
En 2020. Anse keye da muterura da mudabagiza umwana mwahanawe yaransabye sinamwima sanga rumuntu ogukorera arumuntu okubaha umwana mwahanawe Nasanze koko arumutware boza ibirenge bagasiga amavuta bagasokoza umusatsi. Je signale que Scholastic Mukasonga est en train de danser dans le salon chez La Pérouse en entendant, donc je vais essayer de ne pas écorcher.
Umwana.
C'est ce Karanya Uze, c'est un style de musique rwandaise. Le titre c'était Umwana ni Mutware, ce qui veut dire
L'enfant est roi. L'enfant c'est une mère sans enfant, ça ne peut pas exister.
C'est donc, le sujet du livre en plus.
Ouais, vraiment, vous avez lu
là-bas, vous dites que dans Julienne, donc il vient de sortir chez Gallimard, qui est l'histoire d'une itinéraire d'une enfant pas gâtée qui va naître au Rwanda, s'exiler au Burundi, et ensuite aller à Bruxelles, mais on va pas dire comment, il faut pas raconter tout le livre. Histoire qui est très belle, très romantique, mais qui finit tristement. C'est une histoire, oui, d'une enfant, quoi. Et là-bas, alors si on n'a pas 7 enfants. Il faut 7 enfants, sinon c'est comme si on en avait 0, quoi. C'est ce que vous dites, hein.
Oui, c'est ce que je dis, mais c'est normalement pour vraiment être reconnu comme une mère et à toute la sérénité, le respect, la reconnaissance apaisée au Rwanda, il faut avoir 7 enfants.
7, ouais. Minimum.
Et généralement, non, ce n'est pas minimum, c'est 7. Parce que généralement...
Pas plus.
On peut en avoir plus, mais en faisant vraiment, à regarder autour de moi, dans ma vie, c'est vrai que toutes les familles avaient 7 enfants. Même chez nous, chez moi, on était 7.
Mais vous, vous n'avez pas 7 enfants.
Ah non, moi je suis pas, je suis devenue normande. Il ne faut pas le dire.
Vous êtes normande. Mais oui, vous vivez depuis 1992.
Oui, je suis devenue vraiment normande.
En Normandie, à Saint-Aubin, c'est ça?
À Saint-Aubin-sur-Mer.
Saint-Aubin-sur-Mer. Ouais, là où il y a les cimetières des soldats américains de débarquement.
Oui, tout à fait. Mais je suis au Rwanda respectée parce que je n'ai pas eu cet enfant. Oh non, 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 je dois quand même vous plaider pour moi.
Oui.
Mais allez-y. Je n'ai pas eu cet enfant. Parce que justement, j'ai épousé aussi la Normandie, c'est mon pays, ce n'est même pas le deuxième, c'est au même titre. Mais j'ai 2 garçons.
Oui.
Alors, comme j'ai eu 2 garçons...
Oui, vous avez réussi
donc,
votre vie.
Donc, j'ai réussi quand même, j'ai réussi, je suis une mère respectée.
Et alors, d'ailleurs, ce sont vos 2 fils qui vous ont dit d'écrire ce livre sur Julienne. Pourquoi? Parce que Julienne, donc, elle a existé. Et c'est la marraine...
d'Aurélie qui est Josué dans le livre.
D'accord, voilà. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce qu'il voulait absolument que vous racontiez son histoire?
Parce que c'est... Il constatait que mon écriture a toujours démarré dans la réparation.
Oui.
Tout ce que... Après maintenant, j'écris les romans comme Kibogo est monté au ciel... C'est un roman où je parle de la tradition rwandaise, oui. Mais vous-même qui avez, et je n'oublie, ça ne s'oublie jamais, c'est comme le Renaudot, c'est comme le Nobel.
Oui,
ça ne
oh non, c'est pas comme le Nobel, mais presque. Presque.
Si,
oui.
Si vous faites le compte, la plupart des Renaudot, d'ailleurs, ont eu le Nobel.
Mais oui, sûrement, il faudrait vérifier, mais sûrement.
J'ai vérifié,
Mais c'est vrai que vous aviez eu le prix Renaudot en 2012 pour Notre-Dame du Nil, qui parlait du lycée de Kigali.
Du lycée de Notre-Dame, de voilà. Notre-Dame et du Nil, qui était le lycée Notre-Dame et de Cîteaux, voilà. Où j'avais été élève. Et comme pour Julienne, c'était une histoire qui était très douloureuse, profondément douloureuse, qui me touchait personnellement, qui n'était pas partagé par tout ce qui était mis à l'écart, mis à paria, parce qu'ils étaient tout petits. Là, ça me concernait directement. Et je pouvais pas l'écrire sous forme d'autobiographie, comme pour Julienne. Alors, c'est quelque part mes fils, depuis que j'ai écrit Notre-Dame et Dinil, et qui a un accueil quand même extraordinaire. Quand je dis que je rentre d'Oslo, que je vais au Brésil, que je vais au Maroc, je vais...
Oui, puis il a été animé, adapté au cinéma par Atik Raimi.
Oui.
Notre-Dame du Nil.
Et c'est vraiment le livre qui est traduit énormément. Je n'arrive même pas à suivre et à compter. Je crois que la seule langue qui me reste, c'est le chinois. Et on y travaille absolument.
Non, mais Madame Mukasonga, sérieusement. Parce que évidemment, nous, on a envie de rigoler. Mais c'est quand même un sujet très sérieux, très, très, très tragique.
Mais je crois que l'humour aide beaucoup.
Mais je crois que oui. Et vous avez cette façon indirecte de parler de l'extermination des Tutsis en 1994. Il y a des grands reporters comme Jean Hetzfeld qui ont documenté tout ce qui s'est passé. Vous ne faites pas ça. Vous faites plutôt de manière indirecte. C'est-à-dire, Notre-Dame du Nil, prenons l'exemple, c'est dans un collège et c'est longtemps avant le génocide. On comprend qu'il y a déjà une ségrégation, une tentative d'épuration, il n'y a que 10% d'élèves Tutsis dans le collège, etc. Donc, c'est un peu comme le ruban blanc de Haneke, vous vous souvenez, ce film où on voit avant le nazisme comment l'Allemagne a forgé des hommes traumatisés. Et voilà, c'est ce que vous faites sur votre mère aussi, La femme aux pieds nus en 2008. C'est un livre hommage à votre mère, Stéphania, qui a été assassinée pendant le génocide. Un si beau diplôme en 2018, c'est sur votre père, Cosma. C'est lui qui vous a poussé à faire des études d'assistante sociale qui vous ont permis de survivre au génocide.
Oui.
Enfin, donc, Et là encore, Julienne, c'est votre sœur. Vous faites comme, vous le dites d'ailleurs dans la NRF, pardon pour cette très longue question, dans le dernier numéro de la NRF vient de reparaître sous la direction d'Olivia Gesbert. Vous publiez un texte intitulé « Sauver la mémoire » dans un numéro consacré aux guerres. Et vous dites que, « Je n'ai même pas pu mourir avec eux et je leur écris un tombeau de papier. » Donc, toute votre œuvre est un tombeau de papier pour votre famille disparue.
Oui, c'est ça.
Donc, je veux pas vous obliger à être pas drôle, hein, mais.
Ouais, non, je vais être parce que de toute façon, d'adiner pas l'humour, c'était obligatoire que je passe, que j'utilise cette tradition rwandaise, cette forme, cette façon, parce qu'autrement je n'aurais pas pu entrer dans l'histoire, je n'aurais pas pu écrire. L'humour, c'est l'élégance, c'est la façon de faire passer quelque chose qui est très dur à dire pour celui qui le dit et qui est très dur à digérer pour celui qui va vous lire. Et je voulais être élu, donc il fallait trouver vraiment quelque chose qui adoucit, qui ne met pas les mots ne devaient pas être en même temps, les mots avec O. Oui. M-O-T-S, oui. Ne devait pas être des mots avec M-A-U-X. Donc, il fallait vraiment trouver un compromis, et c'est l'humour. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe, Frédéric? Vous êtes là, seul, enfin, je n'étais pas seul, mais j'étais la seule Rwandaise en Normandie, et vous savez que vous avez une... On vous a dit, votre père vous dit, à scolastique, bien que tu ne voulais pas aller passer l'examen national, je t'ai forcé. Tu as été, j'ai veillé à ce que tu rendes ta feuille, parce que j'avais peur que tu quittes la salle sans terminer. Et tu as eu l'examen national, ce qui a été un miracle.
Un miracle
s'est produit. Et maintenant, tu parles le français. C'est pour cela que je suis vraiment... Alors, français, je fais la résistance, je ne vais pas parler du tout anglais. Et pour autant, je vais que dans les pays où il faut parler anglais. Mais le français, ça m'a sauvé, ça a été mon sauveur. Pourquoi? Parce que mon père a voulu que je l'apprenne. Et là, maintenant, je me trouve face à des morts. C'est ça le génocide. Vous avez des morts, sans corps et sans sépulture. Moi, il fallait trouver absolument un moyen de les sortir de l'anonymat des génocides et de leur retrouver une sépulture. Et c'est là où la littérature vole à mon secours, me donne le moyen de construire un tombeau de papier pour, par exemple, Inyenzi ou les cafards.
Voilà.
Et pour la femme au piano, de tisser le pagne pour couvrir le corps de ma mère avec mes mots.
Oui.
Et pour Julienne, je reviens à la grande sœur. Je l'invoque pour qu'elle soit à mes côtés. Au fait, en écrivant Julienne, je voulais retrouver la position de grande sœur qui la protège. Oui. Je voulais dialoguer avec Julienne. Je lui avais promis que son histoire, je devrais la raconter. Je ne pouvais pas la laisser dans l'oubli.
Mais en plus, vous la construisez, c'est-à-dire que malgré tout, c'est un vrai roman à suspense, puisque Julienne donc quitte le Rwanda, mais à un moment, elle est en Belgique, elle est avec un blanc, ça se passe mal, et à un moment, elle rencontre quelqu'un d'autre, et elle décide de retourner au Rwanda voir sa famille. Je vais pas raconter ce qui se passe, mais évidemment, on meurt de peur. C'est un roman qui est terrifiant, parce qu'on se demande si elle va... pas retourner dans la gueule du loup, vous voyez, je veux dire, une Tutsi qui retourne au Rwanda, et on a, évidemment, vous n'avez pas mis les dates, donc on ne sait pas si on n'est pas, si elle va survivre, et je ne le dirai pas ici, d'ailleurs, vous l'avez un peu dit, qu'elle mourrait, mais voilà, c'est quand même un roman à suspense. Maintenant, je vais vous poser la question qui tue. Est-ce que la France a joué un rôle dans ce génocide rwandais, oui ou non? Un long silence.
Silence. Qu'est-ce que je vais bien répondre?
C'est la faute des Belges, vous pouvez dire que c'est les Belges?
Non, d'abord la faute est à nous, les Rwandais. Ce sont les Rwandais qui ont tenu les machettes, ce sont les Rwandais qui ont tué leurs voisins, leurs amis.
C'est surtout les Hutus. Voilà. Hein.
Mais la création, il faut mollir. La création, il faut lire Notre-Dame et Dindir,
oui,
il faut s'arrêter, il faut comprendre le message
dans
Monsieur de Fontenay.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a créé.
Des ethnies.
On a créé quelque chose qui après a amené ça. Je ne crois pas qu'on l'a créé de façon innocente. On l'a créé ça a eu le temps de mûrir, de monter.
En fait, on a divisé pour mieux régner. C'est ça. Les colonisateurs ont créé des cartes ethniques avec des peuples là de, qui oui. étaient un peu oui. séparés en expliquant vous êtes tous très différents. Les Tutsis avaient une beauté particulière, le nez très fin, non. Non, vous ne croyez pas? Parce que vous dites, parlez de ça, la beauté Tutsi.
La beauté Tutsi, j'en parle parce que justement, c'est de l'humour aussi. Parce que tout le monde est beau. Vous êtes beau, je suis belle.
Moi, c'est vrai, nous, oui.
Oui, chacun est belle et beau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis ça, Frédéric, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous allez au Rwanda, parce que la première chose que nous avons supprimée, les dégâts ont eu lieu parce qu'il y a eu cette fameuse carte d'identité ethnique.
Oui.
Parce que même pendant le génocide, c'est ça qu'on a utilisé. Autrement, on ne pouvait pas savoir qui est Hutu et qui est Tutsi, pour vous dire que tout le monde, et qu'il n'y a pas de différenciation physique.
Hein? Enfin, vous dites donc, quand même, dans le premier, votre premier livre, Inyanzi ou
Kafa... Je suis accusé, levez-vous.
Non, pas du tout, mais vous dites, c'était en 2006, que le village de Nyamata, il n'y avait évidemment pas de Hutu, il n'y avait que des Tutsis, là. Et,
oui.
et ils sont allés là, et tout le monde a été exécuté.
Oui, mais Frédéric, là, je vais reprendre ce que je viens de dire. Vous ne m'avez pas écouté.
Pardon.
Redites-moi. Donc, je vous ai dit que le fossé a été créé avec cette foutue carte d'identité ethnique.
Oui.
On nous a mis à Nyamata parce qu'on a regardé dans les cartes d'identité créées en 1931. Pas le belge. Là, vous allez m'amener à dire...
C'est la faute aux Belges. C'est bien ce que je voulais entendre.
Non, je n'ai pas dit que c'est la faute. La création du mal, oui. Vient de là. Et la carte d'identité ethnique a été créée par le dernier colonisateur qui est le belge.
Oui.
Donc, et à partir de ceux qui ont les vaches et de ceux qui ont la terre.
Oui.
Et ceux qui ont la terre, parce que le Rwanda, c'est un pays agricole, on ne peut pas vivre autrement, on n'a pas d'argent, on vit de ce qu'on a produit dans les champs. Ce qui fait qu'en effet, il y a beaucoup plus de cultivateurs que d'éleveurs et de vaches.
Oui. Oui.
Donc, à partir de là, on crée vraiment une différence
et
on
le jalousie.
Voit dans le papier. Oui, oui. C'est-à-dire que quand on nous a déportés à Nyamata en 1960, on a regardé dans les cartes d'identité.
Oui, et là,
on nous a envoyés à Nyamata.
Oui. C'est là où on a créé une sorte d'apartheid.
Voilà, une fois on est à Nyamata, on est même, je le dis dans Inyenzi, Frédéric, dans Inyenzi, on est revenu même pour vérifier si on ne s'est pas trompé, s'il n'y a pas un Yahutu qu'on aurait embarqué dans la distraction, je ne sais pas. Tellement, il fallait absolument amener vite son peuple. Et après, à partir de 1960, Nyamata était que Tutsi. Moi, j'ai grandi dans une région où je n'avais que des camarades que Tutsi. J'avais que des enseignants Tutsi. Je découvre je découvre la vie des Hutus, des collègues Hutus, à Notre-Dame et d'Inil. Et justement, là, je me trouve dans la guerre du loup parce que justement, je suis Inyenzi.
Oui.
Et c'est là où ça va être
Inyenzi,
compliqué.
Inyenzi, donc j'explique, ça veut dire cafard. C'est pas un hommage à la métamorphose de Kafka, quoique peut-être. Mais enfin, non, c'était l'atroce surnom qu'on donnait aux Tutsis, qui étaient considérés comme des insectes.
Comme des insectes, des parasites. Alors, pour terminer, à Nyamata, justement, le génocide a été très facile et très rapide. Si j'avais été à Nyamata en 94, je ne pouvais pas échapper à la machette des tueurs. Parce que ce n'était plus la peine de regarder dans la carte d'identité ethnique.
Non, ils
étaient que Tutsis. C'était au suivant, vite, le travail était rapide. Parce qu'on appelait tueurs et Tutsis de faire le travail. Tandis que ceux qui étaient restés très peu à l'intérieur du pays, il fallait absolument vérifier s'il est bien Tutsi pour le tuer. Et donc je ne sais pas, c'est voilà. Alors, vous m'avez posé la question de savoir si la France a une part. Donc, moi, je vais vous répondre très facilement parce que c'est une question qui n'est pas si simple. Il me faudra du temps, comme j'ai aussi mis du temps pour écrire Julienne. C'est-à-dire qu'il faut reprendre ce qui a été dit par le président Macron, qui est allé au Rwanda pour une fois, un président français est allé au Rwanda pour dire les choses. Et il y a eu un rapport, le rapport Vincent Duclerc d'abord, qui a été commandé aussi par, autorisé par
la France.
Emmanuel Macron. Et il a été le 27 mai 2021. D'ailleurs, j'étais invitée à partir avec lui dans l'avion. Et il a devant les milliers de Rwandais à Dissosi, sur l'oreiller de mémoire, où il y a 250 000 donc, tombes de victimes et du génocide de Tutsi, il a dit ces mots, Frédéric. Ma réponse va être celle-là. Je viens reconnaître la responsabilité lourde et accablante de la France dans le génocide de Tutsi au Rwanda. La responsabilité lourde et accablante.
On entend là une musique plus ancienne, c'est la musique de la cour royale du Rwanda. C'est un Runjindiri enregistré en 1990. C'est votre deuxième choix de musique classique rwandaise.
Oui.
Alors, vous ne vous trompez pas, vous êtes toujours bien sur Radio Classique, mais on entend du classique rwandais. C'était un Runjindiri, c'est la musique de l'ancienne cour du Rwanda.
Oui, c'est à la cour royale qu'on jouait l'inanga, la guitare, qui est un instrument traditionnel.
Et on se retrouve juste après quelques messages.
Maintenant, vous le savez, dans « Vous trouvez ça classique », nous faisons des voyages dans le temps à la rencontre des compositeurs. C'est donc avec un immense plaisir que j'accueille aujourd'hui Claude Debussy. Ah, Claude Debussy n'est pas là. Monsieur Debussy, Claude Achille, où êtes-vous ? Ah, bah vous voilà, bravo, c'est malin. Et maintenant, on n'a plus le temps. Alors retrouvez-le dans ce nouvel épisode.
Vous trouvez ça classique ? Un podcast de Radio Classique et de l'orchestre Appassionato. Disponible sur l'application Radio Classique et vos plateformes habituelles.
Karina Septi, vous êtes DG de Robert Walters Management de Transition, un succès depuis 20 ans.
Chaque entreprise est amenée un jour à accélérer sa transformation, gérer une crise ou remplacer sans délai un dirigeant. Chez Robert Walters Management de Transition, nous déployons des managers expérimentés pour répondre à vos besoins ponctuels et urgents. Chaque contexte est unique, parlons-en.
Christophe André nous parle de son nouveau livre, « S'estimer et s'oublier », publié chez Odile Jacob.
L'estime de soi, c'est important. Porter sur soi un regard bienveillant et exigeant, connaître ses qualités, accepter ses défauts, traverser intelligemment bonheur et adversité. Construire et entretenir l'estime de soi, c'est essentiel. Puis, une fois ce travail accompli, il faut s'oublier, cesser de penser à soi et se tourner vers les autres, le monde, la vie.
S'estimer et s'oublier. Un livre de chevet à lire et à relire, c'est chez Odile Jacob.
C'est le quatuor à cordes des temps modernes. Celui dont les choix musicaux illustrent à merveille le mot d'Oscar Wilde, la jeunesse de l'Amérique et sa plus ancienne tradition. L'Attaka Quartet revient à Paris avec The New Yorker. Un passionnant programme de musique contemporaine américaine pour tout public. Jesse Montgomery, Caroline Shaw, Paul Vianco et bien sûr Philip Glass. L'Attaka Quartet, The New Yorker, le 6 avril à 16h, au Théâtre de la Ville à Paris. Réservation sur théâtredelaville-paris.com.
Partez à la rencontre des professionnels des métiers d'art et du patrimoine vivant à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Céramistes, bijoutiers, maroquiniers, ébénistes, ferronniers vous proposeront partout en France plus de 8000 événements sous le signe de la transmission. Portes ouvertes, manifestations, démonstrations, ateliers d'initiation, activités jeunes publics, venez découvrir ces métiers passionnants du 2 au 7 avril. Toute la programmation sur journeesdesmetiersd'art.fr.
Pour son 50e anniversaire, le Concours international de piano de Cleveland retrouve ses racines parisiennes, salle Cortot. Des pianistes d'excellence venus du monde entier seront en compétition lors du premier tour du concours. Chacun des 32 candidats donnera un récital d'une demi-heure. En partenariat avec la salle Cortot à Paris, ces épreuves ouvertes au public et gratuites auront lieu du 1er au 5 avril. Programme détaillé du Concours international de piano de Cleveland sur pianocleveland.com.
Les traders sont comme des chefs d'orchestre. Ils dirigent un ensemble d'instruments. Pour garder la maîtrise, il leur faut de bons outils. Avec eToro, les traders composent avec le marché grâce au calendrier économique. Ils restent en phase avec chaque instrument grâce au graphique TradingView. L'excellence exige les meilleurs outils. Téléchargez eToro aujourd'hui et commencez à trader plus intelligemment. eToro est une plateforme d'investissement multi-actif. Tout investissement comporte des risques de perte en capital total ou partiel. Les performances passées ne préjugent pas les performances futures.
Radio Classique.
Plongé au cœur de l'hiver,
avec le célèbre shérif Walt Longmire. Dans Le cœur de l'hiver de Craig Johnson, Walt Longmire n'est pas là pour plaisanter. Sa fille Cady vient d'être kidnappée par un cartel mexicain. Elle est en danger. S'ensuit une aventure à 200 à l'heure. Armé de sa rage et de son fidèle Colt 45, il n'a qu'une mission, la sauver à tout prix. Le cœur de l'hiver, le 14e roman de la série best-seller de Craig Johnson, maintenant en poche, aux éditions Point.
Jusqu'à 20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Je suis toujours chez La Pérouse avec Scholastique Mukasonga pour son nouveau roman Julienne, publié aux éditions Gallimard. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans mon émission, il y a un jeu. Ce jeu s'intitule « Devine tes citations ». Je vais vous lire des phrases que j'ai piochées dans vos livres et vous devez me dire dans lequel vous avez écrit ceci. Alors, cette phrase-là, par exemple. « J'ai tant de morts à veiller ».
C'est d'Inyenzi.
Exactement, c'est dans votre premier livre en 2006, Inyenzi ou les cafards. Très bien, alors vous avez gagné, donc on va...
J'ai un point déjà.
Bah, un point. Deuxième phrase de vous. La pluie pendant de longs mois, c'est la souveraine du Rwanda.
C'est dans Notre-Dame d'Inyenzi.
Oui, Notre-Dame d'Inyenzi. Je continue la phrase parce qu'elle me plaît bien. C'est la souveraine du Rwanda, la pluie, bien plus que le roi d'autrefois ou le président d'aujourd'hui, la pluie. C'est celle qu'on attend, qu'on implore, la pluie sans fin, jusqu'à l'océan qui l'engendre. 2012. Ça a été une surprise pour vous d'avoir le prix Renaudot ?
Oh. Comment j'ai dit ? Je ne sais pas comment j'étais. Je venais de chercher le pain, une baguette, parce que je suis française. Et j'étais figée au milieu de la rue. Et j'entendais... Jean-Noël Schifano, parce que j'étais encore dans la collection Cantonat Noir.
Qui est un des membres du jury du prix Renaudot.
Voilà. Et que me dit qu'Antoine m'attend, qu'on doit partir vite à... c'est où ?
Et chez Drouan.
Ah ouais, ouais. Oui. Que je connaissais même pas. Et je dis,
mais vous étiez à Saint-Aubin ce jour-là ? Vous n'étiez pas venu
j'étais
à Paris ?
J'étais dans Caen, parce que je travaillais à Caen, devant la statue de Jeanne d'Arc, j'étais bien droite. ça a été une grande surprise. Mais en même temps, j'ai dit... La nature ne peut pas être que mauvaise.
Non.
J'ai été entendue. Enfin, j'ai donné un tombeau de papier.
Oui.
J'ai réussi, j'ai été la gardienne de la mémoire. Vraiment, je me rappellerai toujours de ce jour. Il faisait beau. Alors que c'était le mois de novembre.
En plus, il y a quelque chose d'un peu logique que vous soyez en Normandie, parce que vous parlez de la pluie sans fin jusqu'à l'océan qui l'engendre. Bon, la pluie sans fin, elle est aussi en Normandie. Hein, donc finalement, c'est le point commun entre la Normandie et votre pays natal.
Il y a deux points communs à Normandie, et je crois que j'ai choisi la Normandie, au fait. Je voulais vraiment qu'on soit en Normandie. Et parce que on avait pu, à part de nous installer, on avait pu visiter un peu la France. Et donc, la Normandie, aussitôt, j'ai été frappée par le fait qu'il pleuvait. Et d'ailleurs, souvent, pendant longtemps, même encore aujourd'hui, j'aime la pluie, moi. On m'a dit, mais attention, on n'en fait pas trop le rouge, on n'est pas toujours content. Et deuxièmement, les vaches.
Ah oui, les vaches, c'est très important, vous en parlez beaucoup.
Et les prairies vertes.
Oui, et vous parlez beaucoup des vaches dans votre livre.
Il y a beaucoup.
Oui, il y a beaucoup de points communs. C'est vrai. Je dis, parce que peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais aux fiançailles d'un couple, on lui souhaite, au Rwanda, on lui souhaite beaucoup de vaches et beaucoup d'enfants.
Oui.
Mais les vaches d'abord.
Oui. Parce que la vache, c'est comme la pluie, c'est la vie. La vache, une belle fille est comparée à la beauté. Dans la femme aux pieds nus, vous auriez pu aussi me poser la question là-dessus, comme devinette.
C'était celle d'après.
Dans la femme aux pieds nus, c'était absolument le moment de loisir par excellence pour les mères, le dimanche, parce qu'on ne va pas à la messe, parce qu'on a été tellement christianisés, on est très catholiques, on va à la messe. Et après-midi, on ne va pas au champ, on ne touche à rien. Et on fait... Absolument, on passe à revue les filles à marier.
Oui.
Et on doit absolument vérifier. Et ma mère, c'était une mariée par excellence. Et on passe à revue la fille si elle répond à tous les canaux de la beauté de la fille rwandaise.
Il faut avoir des fesses de vache.
Il faut avoir les fesses de vache. Pendant longtemps, quand je suis arrivée à Caen, comme je retournais à l'école, et je regardais mes camarades, et celles qui avaient les fesses, les jambes bien droites, bien développées, je les attrapais. Je disais, vous êtes magnifique, tu es belle, comme le jour. Et le regard d'arovide, le regard de veau, même jusque-là, heureusement, il y a les vaches, je m'arrête pour regarder les veaux, le regard des veaux.
Parce qu'un regard de veau n'est pas un compliment en France. Hein,
je l'ai dit. À mes camarades, à mes copines, et maintenant, je dis, toi, regard de vache. Mais j'ai compris, maintenant, je ne dis pas. Mais au début, pendant longtemps, je le disais.
Mais dans Julienne, d'ailleurs, Julienne est considérée comme beaucoup trop maigre par sa mère. Et elle dit que c'est une gazelle, ce qui est une insulte. Hein. Il faut être physiquement plutôt proche du bovin.
De la vache.
Du bovin.
De la vache.
Bon. Alors, je continue mon jeu, devine tes citations. Une autre phrase. Quand tu marches, c'est à ton cœur qu'il faut s'adresser. C'est lui qui répand la lumière dans tout le corps. Alors dis-lui de rappeler à tes orteils qu'ils doivent voir où tu mets les pieds.
Là, ça va être Nicole. Je ne sais pas si c'est dans La femme au pianiste
si.
Ou de...
Oui, bien sûr.
C'est ma mère qui nous guidait comme ça.
Oui.
Avec,
donc, il ne faut pas regarder ses pieds quand on marche. C'est le cœur qui regarde.
C'est le cœur qui regarde parce que de toutes les façons, à quoi bon on marche la nuit? Là, au Rwanda, la nuit tombe de bonne heure. Le soleil se lève de très bonne heure à 6 heures et il tombe aussitôt, vraiment sans vous prévenir. Il tombe aussi à 6 heures. Et pourtant, on n'a pas fini. Par exemple, les enfants qui sont à l'école ne sont pas encore arrivés à domicile, dans la case. Et donc, pendant tout ce trajet, parce que c'est loin l'école, c'est à 10 km presque, de 8 à 10 km de la maison, et vous marchez dans les cailloux, vous marchez aussi les serpents qui sortent de la bosse.
Ah oui, mais c'est dangereux.
Vous ne voyez rien, c'est l'obscurité totale. Et puis, moi aussi, alors, une anecdote, une fois rentrant des vacances à Normandie, je ne sais pas d'où on venait, pour rentrer chez nous à Normandie, c'était la nuit, c'est la première fois qu'on était parti si loin en vacances. Je vois que dans les campagnes, il faisait noir. Mais je dis, comment est-ce possible que la campagne n'est pas éclairée? Parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y a des campagnes non éclairées en France. Mais la nuit, donc, c'est le cœur qui voit. Parce que dans la maison de Stéphania.
Oui, votre maman.
Parce que la maison, ma mère, elle s'est construite une vraie maison traditionnelle où elle pouvait retrouver la sérénité maternelle. On marche, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. Et c'est vraiment l'obscurité totale. On marche vraiment les yeux fermés et c'est le cœur qui doit voir. Et c'est vrai, essayez Frédéric.
Mais oui, je vais essayer.
Mais ne vous cognez pas.
À propos de La femme au pied nu, vous avez, donc, il y a une des musiciennes brésiliennes, Eloisa Fernandes au piano et Mané Silveira au saxo, qui ont composé tout un album en hommage à ce roman, à ce récit. Familiale sur votre mère.
C'est la femme pied.
On écoute. Donc c'est Eloisa Fernandez et Mané Silvera qui ont écrit un disque sur votre livre La femme aux pieds nus en 2018. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous une star au Brésil?
Je ne sais pas, Frédéric. Eh, je vous ai dit. Hein.
C'est votre. Peut-être.
Je ne sais pas, je ne me pose pas de questions. Moi, j'ai envie de citer Primo Levi qui a dit: comme il n'y a pas de bonheur parfait, il n'y a pas de malheur absolu non plus. Moi, je ne sais pas. Moi, quand les bonnes choses arrivent, je pourquoi pas? Pourquoi ce ne serait pas moi? Oui. J'ai attendu tellement longtemps. Alors, ce qui s'est passé, je suis allée à São Salo do Paraty, qui est très connu, qui est international, et je présentais La femme aux pieds nus. Et on a fait une grande conférence dans une très grande église, je n'étais pas seule. Et déjà, j'ai signé pendant 3 heures dans la nuit profonde. Je ne comprenais pas ce qui arrivait. Il y avait une file d'attente. Et en plus, ils sont très, très tactiles comme nous. Ils aiment toucher. Ils aiment toucher. Ils ont vraiment, j'ai retrouvé des gestes rwandais. Et après, la femme au pied, j'étais devenue comme la Madone. Jusqu'à ce que je rencontrais les gens, dans la petite ville de Paraty, parce que c'est tout petit, mais tout d'un coup, il y a vraiment, c'est tout
très,
le monde.
Très, très joli, Paraty.
Très joli. Et les gens, ils voulaient me toucher. Ils avaient la chair de poule. Et même Lula, il m'a convoqué dans son palais.
Le président Lula.
Le président Lula, il a dit, mais cette femme qui fait descendre toute la population brésilienne, c'est qui, c'est quoi, je vais la voir. Et paraît-il qu'elle a écrit sur la mère, que c'est le livre de sa mère, et moi je dois tout à ma mère, je suis devenue président grâce à ma mère qui disait toujours, tu peux faire mieux.
Oui, mais c'est comme Lula. Vous.
Donc voilà, donc c'est chez moi. Le Brésil, c'est mon troisième pays. Et c'est pour cela que j'ai choisi d'ailleurs
cette musique.
La musique que vous allez mettre tout à l'heure.
Ah oui, bien sûr. C'est une surprise.
De Joséphine.
Diriez-vous que vous êtes la voix des morts du Rwanda, comme par exemple Riti Pan peut être la voix des morts du génocide cambodgien? C'est une responsabilité en même temps, parce que il y a d'autres auteurs qui ont écrit du Rwanda, mais vous êtes très lu là-bas, au Rwanda. Est-ce que, par exemple, là, vous allez retourner au Rwanda pour les 30 ans du massacre? C'était en 1994, donc cette année, on célébrera les 30 ans des...
des génocides de Tutsi.
800 000, entre 800 000 et 1 million de morts.
On ne va pas jouer sur les chiffres. On ne veut pas reconnaître 1 million de morts, mais moi, c'est 1 million de morts. Puis 1 million de morts, de toute façon, qu'est-ce que ça... Il faut mettre à l'échelle de la famille. Quand vous avez scolastique devant vous, et il y a eu beaucoup de scolastiques qui, justement, nous avons survécu à deux. Oui. Parce qu'on n'était pas là, André et moi. André est scolastique, les parents ont dit en 73, vous partez, vous serez la mémoire. Lui, il a pris la direction du Sénégal et moi, j'ai pris la direction de la
Burundi,
France, du Burundi. On était au Burundi d'abord, tous les deux.
Oui.
Mais de ceux qui sont restés au Rwanda, rien, même pas une maison, même rien du tout, même aucune trace. Donc, quand vous avez perdu tout le monde, mais qu'est-ce que vous pouvez... 1 million, pour vous, c'est tout le monde.
Bien sûr, c'est une abstraction.
Ça ne veut rien dire.
Non, ça veut rien dire.
Voilà, donc c'est pas la peine qu'on continue à se...
Vous êtes très lu là-bas. Vous n'êtes pas seulement au Brésil. Au Rwanda, ouais. Vous êtes un symbole, en fait.
Je suis un symbole et je m'en suis rendu compte hier à Oslo. Il y avait une communauté rwandaise, mais vraiment, la salle était archi pleine. Moi, j'ai cette chance, je remplis les salles.
Il y a beaucoup de Rwandais en Norvège?
Je ne savais pas. Oui. J'avais posé la question à mon éditeur, est-ce qu'il y a des communautés africaines ici? Il m'a dit, si, on a une grande communauté éthiopienne. Et c'est vrai que j'en avais vu, j'en avais aperçu dans le train, j'en avais aperçu dans la ville, mais on ne m'a pas parlé de Rwanda. Mais là, tout d'un coup, comme il y avait la conférence, je vous assure, c'était la moitié de... Pas la moitié, mais un tiers quand même d'exilés, des gens qui sont là depuis 91 et qui étaient là pour absolument, quelque part, c'était très important, Frédéric, pour dire, elle est là pour nous. Mm-hmm. Elle sauve notre histoire. Elle est notre histoire. Elle représente beaucoup. Elle voulait tous me toucher. Et c'est normal, les Rwandais, on se touche. Et les Norvégiens, ils ont été très généreux. Ils nous ont laissé un moment parce que tout le monde attendait pour la signature. Et puis, de toute façon, pour la notaire, il faut toujours signer. Faut pas décevoir quand même. On est, l'éditeur vous a fait venir pour que vous puissiez être élu. Mais il est vrai que là, j'attends la sortie de Notre-Dame et d'Inir. Il est sorti déjà. Notre-Dame et d'Inir en Kinyarwanda. Mm-hmm. Ce qui va encore être élu par ceux qui n'ont pas la chance d'accéder au français ou à l'anglais. Donc, il y en a beaucoup qui lisent le Kinyarwanda. Donc, oui, je suis lue et mes livres sont toujours attendus.
Mais vous m'avez pas dit si vous alliez y retourner en avril, là, pour le 30e anniversaire.
En avril, je vais d'abord, je m'étais engagée pour le Brésil. Je reviens mi-avril, mais je dois y être à Nyamata, obligatoirement. C'est obligatoire. À l'église de Nyamata, on doit absolument aller. Vous dois être avec les miens à Nyamata.
Mmh. Nyamata, je le signale, c'est là où Jean Hatzfeld aussi avait fait un grand livre qui s'appelle « Dans le nu de la vie, récit des marais rwandais » en l'an 2000, qui était un livre terrifiant, évidemment, mais notamment, c'est affreux, mais il explique que 800 000 morts en 12 semaines, c'est un meilleur rendement que la machine nazie.
C'était le travail.
En très peu de temps, tuer autant de gens en très peu de temps,
On appelait ça le travail, Frédéric. C'est... Et puis, pour vous dire vraiment, pour parler de ce qu'a fait Jean Hatzfeld, c'est que c'est vrai que dans l'ONU de la vie, je retrouvais les noms des personnes. Oui. C'était un récit authentique. Il s'est donné le temps de voir, de vraiment d'écouter les gens et de voir, de comprendre l'histoire. Ça faisait écho à sa propre histoire, je peux l'entendre. Oui. Et puis voilà, c'était son métier de journaliste. Mais quelque part aussi, quand je dis que j'ai mis 10 ans pour écrire et présenter, et penser faire publier le premier livre, Nyenzi le Cafard, le seul que je me devais d'écrire, parce que c'était vraiment, je ne pensais pas que j'allais aller plus loin. C'est que quand j'ai lu « Dans le nu de la vie », le premier livre de Jean Hatzfeld, j'ai dit « Il manque le début.
Oui.
Il y a la fin. Et un génocide ne tombe pas comme ça du ciel. Et c'est mon devoir et de ma responsabilité
d'écrire, de remonter
dans le temps. » Et je suis parmi les rares témoins. Moi, j'écris sur la...
Les causes,
l'origine et les racines.
Vous avez choisi donc de nous faire entendre aussi dans cette émission Joséphine Baker qui repose au Panthéon. J'ai deux amours.
Ah ouais, comme moi.
Oui.
J'ai deux amours. Et j'en ajoute la troisième aussi, le Brésil. Mais j'ai de vrais amours. J'ai la France, vraiment. Frédéric, ce n'est pas parce que vous êtes français.
Mais vous disiez ça.
Si je n'étais pas arrivée en France, qu'est-ce que je serais devenue? Je ne l'ai pas pu écrire.
Étiez restée là-bas, vous ne seriez pas là pour en parler.
Je ne serais pas là pour en parler d'abord. Donc, c'est pour cela que je dis, et puis mon autre amour, mais c'est vraiment au même titre, hein. C'est le Rwanda. Je suis rwandaise et je suis marquée au fer rouge en plus. Je m'appelle Mukasonga. C'est un nom typiquement rwandais. On ne peut pas, on partage les mêmes noms avec le Burundi, mais Muka, c'est vraiment un préfixe de nom que rwandais. Donc j'ai deux amours, j'ai la France et le Rwanda. Allez, on écoute Joséphine.
Mais dans mon monde, quand sur la rive parfois au lointain j'aperçois un paquebot qui s'en va vers lui jetant les bras et le cœur battant de moi à mi-voix. Doucement je dis emporte-moi.
Deux amours, ton pays est Paris. Pars toujours, ton cœur est ravi. Ta savane est belle, mais à quoi bon venir? C'est ton rêve joli.
J'ai deux amours, mon pays est Paris.
Joséphine Baker, J'ai deux amours, en 1930. Votre prénom, Scolastique, vous savez, la Scolastique, c'est une science qui tente d'harmoniser la raison et la foi, la philosophie antique et la théologie médiévale.
Oh là là.
Bref. Dans votre prénom, déjà, il y avait cette idée d'associer deux pays, la France cartésienne et le Rwanda, peut-être qui est plus religieux, un peu plus religieux, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, tout était prévu dans votre prénom. C'est ça que je voulais vous dire.
C'est une destinée qu'on ne peut pas... Moi, pour toi, je ne crois pas beaucoup à... Moi, je suis plutôt de nature à me pousser, à dire, tant que tu es debout, il faut aller de l'avant, il faut faire, tu verras. Comme le proverbe kinyarwanda dit, il faut s'arrêter tous les sorgots, on ne sait pas lequel donnera le premier, donc il faut toujours, il ne faut jamais baisser les bras. Je suis dans l'optimisme qui n'est pas naïf. Et donc, je pense que c'est la scolastique. Normalement, comme je sors d'un pays catholique, et qu'en plus, on ne choisissait pas son prénom. Ce n'est pas les parents, ce ne sont pas mes parents qui ont choisi scolastique.
Ah bon?
Mon père m'a donné le nom, mon vrai nom, c'est Mukasonga, qui a une signification, on en parlera un autre jour. Mais le scolastique, c'est le prêtre. Ce jour-là,
c'est pour ça qu'il a pris un terme religieux.
C'est tombé sur moi, ce jour-là.
Oui, mais c'était bien visé.
Le prénom qui devait sortir pour une petite fille, et c'était scolastique. Et je suis rentrée avec le prénom le plus long, qui n'existait même plus du tout. Dans les campagnes, on avait oublié scolastique. Et d'ailleurs, dans l'école, pour mes amis, on coupait toujours, parce que c'est à la ronge. On l'appelle Scola.
Scola.
Mais après,
ouais.
Scolastique, maintenant, si quelqu'un touche à scolastique, parce que j'ai compris.
Oui.
J'ai compris le message, le destin qui a fait bien les choses. J'ai compris le message qui est dedans.
D'accorder la raison et la foi. Voilà. En tout cas, merci infiniment d'être venu passer cette heure en ma compagnie. C'était un grand honneur de vous recevoir. Je rappelle et je conseille vraiment à nos auditeurs de lire Julienne, votre nouveau roman, récit, publié chez Gallimard. Je remercie également mon équipe, Philippe Gault, Mathieu Roclago à la réalisation, Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant sur Radio Classique, vous retrouverez Laure Maison pour le journal du classique. Et continuons d'écrire, de lire et de vivre.
Merci beaucoup Frédéric, vraiment merci pour cette générosité de passer un moment avec vous. J'ai rêvé Frédéric.
Oh, vous en rêviez?
Oui.
Eh bien on l'a fait.